Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, chaque jeudi à 13h15 et 19h15. Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, qu'on peut écouter également sur internet, www.radiofmplus.org, avec Yann à la technique. Je reçois aujourd'hui Claude Bonnet dans mon émission. Bonjour Claude.
Bonjour Marie-Agnès.
Claude Bonnet est cinéphile. Il réalise une émission autour du cinéma qui se déroule sous la forme d'une table ronde sur Radio FM+, chaque troisième mardi du mois à 14h. Pouvez-vous nous dire, Claude, depuis quand vous êtes passionné de cinéma ? La première question qui me vient.
Ouh là là, ça remonte à très longtemps, effectivement. En fait, ça s'est passé en deux épisodes. C'est-à-dire que dans un premier temps, à l'école où j'étais à Béziers à l'époque, on avait, tous les dimanches soirs, on avait une séance de cinéma. Et je crois que quand j'étais en troisième, il y a eu un ciné-club. C'est-à-dire que tous les mois, on avait une personne, un monsieur, dont évidemment j'ai oublié le nom, qui venait et qui nous faisait le ciné-club. Par contre, ce dont je me souviens, c'est que le premier film, c'est un film de John Ford, qui s'appelle toujours La Chevauchée Fantastique, avec, c'était le premier grand rôle de John Wayne, et c'était l'histoire d'une diligence qui est poursuivie par des Indiens, voilà.
Alors juste en parallèle, moi,
c'est le premier temps.
Mon premier souvenir, parce qu'on n'en a jamais parlé, mais c'était au lycée de Trévoux, où j'étais pensionnaire à l'entrée en sixième, ça a duré un trimestre, ça n'a pas duré longtemps, donc j'avais moins de 11 ans, et il y a certains soirs où on avait des films de Charlie Chaplin, et c'est comme ça que j'ai découvert Charlie Chaplin.
Mais alors, le deuxième, le vrai coup de foudre, ça a été... l'élément déclenchant, donc c'était en première au lycée Joffre à Montpellier, et j'avais comme professeur de français monsieur Gourgue, qui était à l'époque le président du ciné-club Jean Vigo, et qui évidemment se débrouillait toujours, on faisait les grands classiques, il me semble, et il se débrouillait toujours à la fin d'un cours pour nous dire il faudrait que vous alliez voir tel film au cinéma, et il nous parlait un peu du film, et effectivement c'est là que j'ai commencé à enclencher.
Oui, c'est une invitation à la curiosité, à la découverte.
Exactement.
Alors je crois que l'émission, elle se déroule sous l'égide de l'association Profil.
C'est l'association Profil. Alors, voilà. Profil, donc, c'est une association classique, loi du 1901, qui a été fondée par le pasteur Jean Daumont, qui vit à Montpellier, en 1992. Donc ça commence à faire un bout de temps. Alors Profil, ça veut dire protestant filmophile, mais ça veut dire aussi promouvoir des films. Donc l'idée de Profil, c'est de proposer des films qui ont une qualité humaine, qui ont une qualité artistique aussi, et qui aident à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est il y a à peu près 200, un peu plus de 200 personnes qui sont regroupées sous Profil, qui sont réparties dans une douzaine de villes en France. Il y a deux groupes d'ailleurs à Montpellier. Il y a un groupe à Nîmes pour la région, il y a un groupe à Toulouse, il y a un groupe à Narbonne. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on se réunit une fois par mois, sauf l'été, autour d'un film qui est présent sur les écrans de la ville. Non, un film d'actualité. Lors de la réunion précédente, il y en a quelqu'un qui s'est désigné donc, pour présenter le film et pour animer la réunion. Évidemment, tout le monde, les gens qui viennent, sont censés avoir vu le film. Ça, c'est la première chose. Ce qui se passe ensuite, il y a des réunions de formation aussi aux techniques du cinéma. Il y a un journal trimestriel qui s'appelle Vue de Profil. Il y a un site Profil Online dans lequel il y a donc tous les trimestres des informations sur les films et en général sur un thème aussi également qui est traité.
Si j'ai bien compris, les émissions, c'est plutôt sous forme d'une table ronde.
C'est une table ronde qui est... Le but de la réunion, c'est de faire parler les gens pour savoir quel est leur ressenti, d'échanger, de donner des opinions, des références, etc., etc.
Et l'émission dure un peu moins d'une heure, 50 minutes à peu près.
Les réunions.
Les réunions,
ça dure à peu près la durée d'un film, entre une heure et demie et deux heures maximum.
Et les émissions ?
Les émissions durent une heure.
Une heure. Et, mais également, il y a quand même pas mal de plusieurs participants qui...
En général, il y a au moins deux participants.
Déjà.
Des fois, c'est trois, rarement quatre.
D'accord. Les émissions sont sur podcast, bien sûr.
Les émissions sont sur podcast.
De Radio
donc,
FM+.
De Radio FM+, et aussi, évidemment, sur le site de Profil.
D'accord. Alors, cette rencontre entre Jardin d'Isis et Profil a vu le jour dans un souhait que vous avez eu, Claude, d'explorer les parallèles entre le cinéma et la poésie.
Oui, parce qu'on parle toujours de cinéma, mais moi, comme je suis d'une formation classique, on va dire, littéraire, et j'aime bien la poésie, et j'ai eu l'idée comme ça, je ne sais plus comment ça m'est venu, ni pourquoi, j'ai eu l'idée d'associer les deux. J'en ai parlé donc à Guylaine Dubois, qui m'a dit, bonne idée, je vais te présenter à quelqu'un pour la poésie, pour le cinéma, toi ça ira, mais pour la poésie...
D'accord. C'est une belle idée d'ouverture entre les deux émissions, de se rejoindre un petit peu autour de ces univers qui ont pas mal de similitudes quand même. Donc vous avez choisi Les Visiteurs du Soir pour mettre en image notre discussion d'aujourd'hui, qui est un classique du cinéma. Je vous invite à revenir sur ce film, le réalisateur, les acteurs, l'auteur, les auteurs des dialogues, puisqu'il ne sont, il n'est pas qu'un seul l'auteur.
Alors, c'est le cinquième film qu'a fait Marcel Carné avec, évidemment, je trouve plus son nom, au secours.
Au niveau des scénaristes ?
Oui.
Jacques Prévert et, Pierre,
voilà.
Et Pierre Laroche.
Et Pierre Laroche, oui.
Si j'ai bien compris.
Donc, c'est surtout avec Prévert qu'il a beaucoup fait de films. Donc, il avait commencé quelques années auparavant, puisque son premier long métrage, donc je parle de Marcel Carmé, son premier long métrage, donc, il a fait avec Jacques Prévert au scénario et au dialogue. Il s'appelait Génie, il n'est pas resté trop dans les annales. Le second est plus connu, c'est Drôle de drame. Qui est sorti en 1938. Le troisième, c'est Le jour se lève, 1939. Et le quatrième, donc, Les Visiteurs du Soir, dont nous allons parler tout à l'heure. On suivit Les Enfants du Paradis, Les Portes de la Nuit et La Fleur de l'Âge, qui est un film qui n'est jamais sorti sur les écrans parce qu'il est achevé. Ce sont des choses qui arrivaient, parce que ça arrive quand même de moins en moins. Voilà, donc pour le film, donc, alors, on peut peut-être parler grosso modo de l'histoire.
Oui.
Alors, pratiquement, si vous voulez, tout est dit dans le début. L'ouverture du film, ça se fait comme ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est un livre qui s'ouvre avec de belles enluminures. Et il y a écrit la chose suivante, donc, sur la première page. Or donc, en ce jour de mai 1485, Messire le Diable dépêche sur Terre deux créatures pour désespérer les humains.
Oui.
Et en bas, il y a marqué « Vieille légende française du XVe siècle ».
D'accord. Alors, peut-être nous parler du contexte du tournage qui a eu lieu en 1942, si je ne me suis trompé.
Oui. Alors, en 1942, donc, c'était, on était en pleine occupation allemande. Évidemment, le film, ça ne se voit pas trop, mais il a quand même souffert d'une pénurie de pellicules. De moyens aussi, oui, donc ils travaillaient dans des conditions difficiles, évidemment, comme tous les Français de l'époque. Donc il y avait des coupures d'électricité, il y avait des menaces de bombardement, il y avait tout un tas de contextes aussi avec des techniciens n'étaient pas là parce qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient prisonniers. Il y en avait d'autres qui avaient le maquis, la résistance était bien installée à cette époque-là. Et donc c'est un film donc qui est marqué par son époque.
Oui.
Voilà.
D'après ce que j'ai lu, alors j'ai pas mal de choses là autour, c'est vrai. Les décors ont pu être récupérés sur un projet antérieur concernant le chat botté. Il y a eu des difficultés pour trouver des costumes. Et ce qui m'a quand même énormément marqué, c'est qu'il a fallu empoisonner la nourriture, ce que j'ai lu, en prévenant les acteurs, parce que les acteurs avaient tellement faim qu'ils se jetaient sur les plats au moment de la scène, du banquet, dans le château.
Ça, c'est... Oh oui, c'est une chose qui se faisait à l'époque. Enfin, oui. Il y a eu quand même pas mal de films qui ont été tournés sous l'occupation. Oui. Et souvent, donc, où les aliments étaient factices, où effectivement, on mettait un produit dessus.
Oui, pour qu'ils ne soient pas comestibles. Voilà. Voilà. Alors après, le tournage a duré longtemps. Et d'après ce que j'en ai lu, Marcel Carnet avait un caractère réputé difficile.
Effectivement, ça l'a suivi toute sa vie.
Oui, oui.
Et alors, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été dites et écrites sur sa relation. Mais bon, Carnet, je pense que Carnet a dit qu'il s'était toujours très bien entendu. Mais il y a eu des quiproquos. Il y a Jean Renoir qui a dit que c'était un film fasciste. Il y avait une ambiance quand même qui était assez délétère à l'époque. Oui. Donc ceci explique peut-être cela. Mais la collaboration donc, qui a duré quand même pas mal d'années avec Prévert, il y a toujours eu, je pense, une entente. Parce qu'il y avait certainement une complémentarité entre eux, même si on ne peut pas dire, enfin, d'après ce que j'ai lu, on ne peut pas dire qu'ils étaient amis, comme on l'entend aujourd'hui, mais ils étaient complémentaires, et c'est pour ça que ça a fonctionné. Voilà.
Alors, pour parler du caractère, je pense qu'il était de mauvaise foi quand même. Et il a même accusé la guerre de ne pas vouloir finir pour empêcher la sortie de son film. C'est ce que j'ai lu, je me suis dit, alors ça c'est quand même...
Tout est possible.
Tout est possible. Alors, quels sont les aspects qui vous ont le plus touché au travers de ce film, Claude Bonnet ?
Alors, évidemment, dans ce film, il y a les dialogues. Je pense que c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc les dialogues, c'est du Prévert, hein, naturellement. Et d'ailleurs, on les retrouve après, et je pense qu'ils sont certainement meilleurs d'ailleurs dans Les Enfants du Paradis, qui est le film qui va sortir trois ans après, avec les mêmes, et pas mal d'acteurs aussi qui sont dans les deux films. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait une pénurie d'acteurs. La deuxième chose que je retiendrai, moi, c'est l'atmosphère de ce film. Hein. C'est une parabole. Donc, on est dans ce qu'on a appelé par la suite, après le réalisme poétique. Il y a ce côté intemporel de ce film, et il y a surtout c'est un message d'amour et d'espoir. Je sais pas, on aura peut-être l'occasion de parler de la fin du film. Ce cœur qui bat dans cette statue de pierre. Ça nous amène peut-être aussi. C'est peut-être l'occasion de parler de la double lecture du film.
Qui est tournée et sortie pendant l'occupation allemande, donc.
Voilà. Et donc, qui dit occupation allemande dit censure. Alors, ce qu'il faut. Deux mots juste sur la Société Continentale qui a produit à cette époque-là le plus de films en France. Une époque, entre parenthèses, où les films américains et les films britanniques étaient interdits. Mais il y avait quand même autant d'affluence, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu autant d'affluence dans les cinémas pendant cette période d'occupation qu'avant la guerre.
Un engouement, de toute façon, c'était quand même...
Voilà, c'était une rare distraction aussi qu'avaient les Français à cette époque. Donc, qui dit censure, donc dit échapper à la censure. Comment échapper à la censure ? Mais déjà en déplaçant l'histoire dans une autre époque, qui est difficilement vérifiable. Donc là, c'est le haut Moyen-Âge, c'est juste avant la Renaissance. Et donc, si on prend tous les personnages les uns après les autres, la lecture, elle est très simple. Hein. C'est Jules Berry qui joue le diable, bon, c'est Hitler, le château, donc c'est le gouvernement français avec les seigneurs du château, donc qui sont collaborationnistes. Le cœur qui bat, dont je viens de parler à l'instant, ben c'est le symbole de la France. Et c'est aussi donc la France qui continue, donc c'est la résistance. C'est la résistance à l'ennemi.
Des monts et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Et toi comme une algue, doucement caressée par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant des monts et merveilles, vents et marées. Au loin, déjà la mer s'est retirée. Mais dans tes yeux entrouverts, de petites vagues sont restées. Des monts et merveilles, vents et marées, de petites vagues pour me noyer.
Oui. Donc, après, cette chanson, c'est Jacques Douai qui l'a chantée. Donc, les textes sont de Prévert. Et c'est la chanson emblématique du film. Hein. Mm-hmm. Pour beaucoup de gens, des mots émerveillés, toc, immédiatement, c'est Les Visiteurs du Soir. Marie-Agnès, je vais vous demander, alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film que vous aviez vu il y a très longtemps, mais que vous avez revu spécialement pour l'émission?
Alors, je vais aborder déjà ce qui aurait pu me déplaire, c'est un film, on va juste parler du son, donc c'est un détail parce qu'il faut forcer sur le volume pour entendre l'intégralité des dialogues qui sont justement le point fort du film. Ça m'a un petit peu dérangée, mais enfin, de toute façon, on ne peut pas échapper à ce défaut quand on écoute un film ancien. Pour ce que j'ai aimé, alors j'ai aimé ce film, globalement, pour l'exploration, alors ce que je cite en premier, l'exploration des différentes palettes de la passion amoureuse. J'ai trouvé que, en plus, c'est un film à vous donner envie d'aimer l'amour, si tant est qu'on puisse en être un petit peu refroidi. Mais alors, on explore toutes les palettes de cette séduction, la promesse, la jalousie, la culpabilité, la possessivité, la perversité, le chantage, la souffrance, la fuite, le sacrifice, le souvenir, le mensonge, l'oubli. Ça en fait, hein ?
Arrêtez, j'en peux plus.
Après, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la dualité entre le bien et le mal, avec cette présence du diable et opposée à la présence de la pureté, de l'innocence, en la personne de Anne.
Oui.
Chaque personnage incarne un type de caractère, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Anne, qui est interprétée par Marie Déa, qui représente la pureté. Renaud, alors moi j'ai écrit le fiancé macho, mais on n'aurait pas dit ça à l'époque. On aurait dit qu'il était exclusif, jaloux, violent, avide de possession et de pouvoir. Donc lui, il est interprété par Marcel Héran. Baron Hugues, qui est le veuf, représente l'autorité. Bon, moi, c'est la première lecture. Hein. Fernand Ledoux, qui est interprété par Fernand Ledoux, le baron Hugues. Dominique, donc interprété par Arletty. Elle fait partie des deux personnages qui sont dépêchés par le diable pour apporter la souffrance au travers du sentiment amoureux. Donc, elle, c'est Arletty. Pour moi, la perversité, la manipulation, le diable Jules Berry, c'est le diable, forcément. Et Gilles, c'est un des deux personnages toujours téléguidé par le diable. Je l'ai trouvé fragile, Gilles, parce que il vient pour faire le mal, mais il tombe amoureux. Voilà, c'est un petit côté humain de ce personnage. Il se métamorphose et lui est interprété par Alain Cuny. Les scénarios, donc deux scénaristes hein, qui ont collaboré pour écrire ce film, Jacques Prévert et Pierre Laroche. Après, j'ai souri à cause de la présence de certaines situations humoristiques. Le bourreau, il va à la pêche, faute de travail à effectuer en temps de paix. Il se déclare heureux d'être appelé brave homme, puis il dit aimer le bien. Il dit aimer faire le bien de temps en temps. Il se trouve aussi attendri par l'amour. Le diable, autre situation un peu drôle, le diable déclare « Je ne suis pas un mauvais diable !» On le sent même prêt à succomber à l'attrait de l'amour sur la fin du film.
Oui, moi je voudrais revenir sur le personnel d'Arletty qui s'appelle Dominique, donc oui. qui est un prénom masculin et féminin à la fois. Oui. Et effectivement, au début, donc, on nous la présente comme un homme.
Oui, c'est vrai.
Et après, donc, c'est d'ailleurs à peu près au milieu du film, donc le diable donc, permet au baron donc justement de révéler cette le fait qu'elle soit une femme quoi.
Oui.
Je pense qu'à l'époque c'était assez osé.
Ah,
et peut-être
oui.
même oui.
Oui
c'est vrai qu'elle c'est un personnage androgyne.
Oui,
et bon évidemment quand on connaît Arletty on se pose pas de questions.
Oui.
Mais là dans le personnage c'est quand même assez drôle.
Oui.
Ce dont on n'a pas parlé aussi mais très rapidement c'est tous les effets des effets spéciaux qui s'appelaient pas comme ça à l'époque évidemment avec les personnages mais je vous laisse continuer là-dessus.
Alors vous me demandiez aussi où est la poésie et où est-ce que j'ai ressenti la poésie au travers de ce récit. La poésie, elle se lit tout au long du récit, tout au long du film qui adopte dès le début l'aspect d'un conte fantastique. Des scènes imprégnées de sorcellerie. Les pages d'introduction à enluminure, vous en avez parlé tout à l'heure, qui feuillettent lentement, renforcent l'esprit du conte, invitent à entrer dans une sorte de rêve. Le cadre de l'histoire quitte l'époque du tournage, on l'a dit également, de façon à éviter la censure, pour se centrer sur le Moyen-Âge, dont on sait que c'était l'apogée de l'amour courtois, avec l'émergence d'une nouvelle façon de parler d'amour. On note, entre autres, le dialogue de Renaud qui va regretter que les conversations ne tournent plus autour des tournois, des combats épiques, des joutes. Alors, l'amour courtois ou fin amour, d'après l'Occitan, est une expression désignant au Moyen-Âge la façon d'aimer avec courtoisie, respect et honnêteté sa ou son partenaire. On trouve les premières traces dans les poésies des troubadours, du Midi de la France. Les plus anciennes chansons dont on garde la trace sont celles de Guillaume IX d'Aquitaine, grand-père d'Aliénor. La poésie, on peut la trouver, bon, moi je la trouve également, dans la vision de l'amour et la vision du couple. L'amour prôné et respectueux de l'autre. Alors je vais citer « Puisque vous m'aimez, ne me faites pas souffrir, ne m'enfermez pas ». L'amour est libre dans ce film, ce qui n'a pas manqué de choquer l'Église, de même que l'absence de Dieu. Parce qu'on voit le diable est présent, mais Dieu n'y est pas. Nous avons la pureté. Hein. Le temps ralentit, alors on en parlait tout à l'heure, le temps ralentit pour parfois s'arrêter, ce qui a évoqué pour moi la Belle au bois dormant. Les personnages, il y a des personnages qui sont figés, ce qui permet aux amoureux de s'isoler au sein d'une fête de cour, par exemple. Et ce procédé représente une nouveauté dans le cinéma des années 40. Ça renforce le climat onirique du film. Le rêve est très présent tout au long du film. Anne aime rêver, mais son fiancé, possessif, je l'ai déjà dit, il lui interdit même cette liberté-là. Prévert était proche en cela des surréalistes qui faisaient des expériences poétiques par le biais du rêve, un de leurs thèmes majeurs. Les répliques sont parfois rimées, autre procédé poétique. Qui a tué dans l'œuf un bel amour tout neuf ? Je cite « Ces jeunes gens ne sont pas de simples ménestrels. Il convient de les traiter comme tels. Je vous promets qu'aujourd'hui, aucun de ces oiseaux ne sera pris. » On entend les rimes. Hein. On entend des allitérations, donc des répétitions de consonnes. « C'est un grand jour qu'il faut parler d'amour à d'aussi fraîches créatures. » De très belles déclarations, ça aussi j'ai aimé. « Que puis-je pour vous, moi qui vis en moi-même ?» La jeunesse du cœur est la seule jeunesse. Mais pourquoi est-elle laide, puisqu'elle l'aime ? Les femmes aiment plaire. Où est le mal ? Des tirades parsèment le déroulement du film, et on ne peut que penser au théâtre. Telle celle du diable sur le feu, un discours sur le bonheur, plusieurs dialogues entre Gilles et Anne. Premier discours, un dialogue, un chant d'amour entre deux êtres. Tout ceci est très romanesque. Mais comment ne pas succomber ? Certaines tirades, par contre, révèlent plutôt un réalisme amoureux. Alors, je pense que c'est le diable qui doit souffler cette tirade à Gilles. Il faut attendre. Plus elle attendra, plus elle vous aimera. Plus elle vous aimera, plus elle s'ouvrira. L'élocution des acteurs est très lente. Elle met l'accent sur le mot. De même, les ralentis sur les visages ou maquillages appuyés, tels qu'on le faisait à l'époque, et accentue la beauté des expressions et des acteurs. Et l'autre, le dernier effet poétique que je vais évoquer, un effet de boucle poétique rare dans un film. Les mêmes paroles citées dans le début de la rencontre amoureuse le seront à la fin du film par un même personnage, Gilles, qui a été frappé d'amnésie. Et il bascule de nouveau dans l'amour de l'aimé. Et ceci crée une sorte de refrain.
Le tendre et dangereux visage de l'amour m'est apparu un soir après un trop long jour. C'était peut-être un archer avec son arc, ou bien un musicien avec sa harpe. Je ne sais plus, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a blessé, peut-être avec une flèche, peut-être avec une chanson. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a touché, qu'il m'a touché, blessé au cœur, et pour brûlante, trop brûlante blessure de l'amour.
Oui. Alors, une dernière question, Marie-Agnès. Ce film vous rappelle des choses, peut-être ?
Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au lait du chèvrefeuille, auquel je suis très attachée, il va de soi. Au lait du chèvrefeuille, écrit par Marie de France, qui vivait au XIIe siècle, à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, justement, on en a parlé tout à l'heure, et d'Henri II, Plantagenet en Angleterre. Et de même à la légende de Tristan et Isolde, qui est la légende fondatrice de l'amour courtois, dans laquelle on retrouve ces mêmes images du chèvrefeuille qui s'enroule autour du coudrier, qui veut les désunir. Ensuite, fait-on le coudrier mourir et le chèvrefeuille avec lui. Belle amie, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Dans le même thème, Roméo et Juliette, pour cette histoire d'amour qui connaît une fin tragique. J'étais un peu gênée de cette comparaison, je me disais elle est un peu facile, jusqu'au moment où j'ai découvert que Jacques Prévert a travaillé avec le réalisateur Kayat autour d'une adaptation à l'écran des Amants de Vérone. Donc je me suis dit, bon, je ne suis pas quand même complètement à côté de la plaque. Et sur la fin, avec ses cœurs enfermés dans la pierre, j'ai pensé au roman La nuit des temps de René Barjavel. Mais le roman est postérieur au tournage. Ce roman a été écrit en 1968, où on trouve des cœurs qui battent sous la banquise. Et la réminiscence, puisque ce personnage, Gilles, frappé d'amnésie quant à son amour, va tomber de nouveau amoureux de la même personne. Donc, on entre dans une idée que le temps n'existe pas. Et avec la force des souvenirs qui existent également dans Marcel Proust, chez Marcel Proust, je vous laisse conclure. Claude, si vous voulez dire quelques mots.
Oui, alors si cette émission vous en a donné envie, vous pouvez toujours voir ce film donc, qu'on trouve d'abord, je pense, dans beaucoup de médiathèques, comme tous les films de Carnet d'ailleurs. Il existe aussi en DVD et on peut également le trouver sur des chaînes payantes.
Oui, oui.
Genre Cinéthèque par exemple.
Ce film Les Visiteurs du Soir s'inscrit dans une nouvelle époque du cinéma fantastique instauré en France, une nouvelle école du cinéma fantastique instauré en France. Le fantastique poétique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans le merveilleux, le romantisme et une inspiration issue des contes qu'il trouve sa source. Alors, c'est le jalon d'un genre qui s'étendra jusqu'à la deuxième moitié des années 50. Bonne écoute et je vous invite à retrouver ce beau film, plein de poésie, justement, sur grand écran. À bientôt.
À bientôt.